Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'AREM, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, c'est la région Bretagne qui se positionne pour le maintien des aides aux pêcheurs. Interview pour annoncer la semaine locale du handicap à Rennes, la troisième. De la musique, dont une nouveauté, un reportage lors du tribunal des mobilités pour les générations futures avec Keolis. Et puis, recommandation du théâtre à l'écomusée. Bienvenue dans l'AREM. Comme toujours, on commence avec l'info que j'ai retenue pour vous. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour des assises de la pêche du côté de Nice. Assises dont les pêcheurs ont quitté la salle en signe de protestation contre les mesures annoncées. Parmi ces mesures, la fin annoncée des aides au gasoil. Alors jeudi 21 septembre, la région Bretagne, à travers la voix du vice-président en charge de la mer et du littoral, Daniel Cueff, avait sollicité un moratoire sur ce sujet. Je cite « le temps de décarboner la pêche ». Mais le secrétaire d'État à la mer, Hervé Belleville, a bien entériné cette décision. À partir du 15 octobre 2023, fini l'aide de 20 centimes hors taxe par litre de carburant qui amenait le litre à un peu moins de 1 euro aujourd'hui pour les pêcheurs. Un plan de transition énergétique de la flotte de pêche a quand même été lancé sur une durée de 10 ans et intègre quand même une réduction à la pompe de 13 centimes par litre, cette fois prise en charge par Total Énergie. On rappelle qu'un chalutier de haute mer consomme près de 2 tonnes de gasoil par jour. Le coût du gasoil représente donc à peu près la moitié du revenu de la pêche. Ça, plus l'inflation qui touche notamment le matériel de pêche, eh bien les pêcheurs ils sont inquiets. On lit sur France 3 Bretagne que l'équation financière n'est plus tenable pour un patron de pêche interrogé. Certains font donc le choix de laisser un de leurs bateaux ou plusieurs à quai, malgré l'aide sur le carburant encore en cours pour le moment. Alors il faut décarboner la pêche, martèle l'État, car 75 millions d'euros d'aide au carburant ont déjà été déboursés, mais hormis quelques dizaines de navires à moteur hybride et des barges ostréicoles bientôt électriques, eh bien les chalutiers ils n'ont pas de version améliorée pour le moment. Reste l'hydrogène, mais peu rentable pour le moment. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, on poursuit avec une interview. Jean-François Monnier, bonjour.
Bonjour à vous.
Je vous présente, vous êtes conseiller municipal à la ville de Rennes, adjoint au handicap et ensemble on annonce la troisième semaine locale du handicap organisée du samedi 23 septembre au dimanche 1er octobre ici à Rennes. La ville de Rennes semble très attachée à l'organisation d'événements thématiques tout au long de l'année. Il y a le mois consacré à la laïcité en décembre, celui dédié aux droits des femmes au mois de mars, à la diversité, à la lutte contre les discriminations au printemps, au mois de mai. Et là on arrive à cette semaine locale du handicap. Quelle place elle a dans la politique de la ville, cette partie un peu vitrine, événementielle ?
La ville de Rennes, bon, c'est une ville accessible. Enfin, en tout cas, on travaille depuis des décennies à ce que la ville de Rennes soit la ville la plus accessible possible. Et nous avons aussi l'ambition que Rennes soit une ville inclusive. Et ça demande un travail à long terme important. Et ça demande de l'information, de la sensibilisation sur ce qu'est une personne en situation de handicap. Et donc voilà, donc cette semaine locale du handicap, elle rentre dans ce cadre pour rendre la ville inclusive. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle du handicap, des personnes en situation de handicap. Pas simplement pour dire que le handicap est une contrainte, mais aussi de rappeler que les personnes en situation de handicap, elles continuent de vivre. Ce sont des citoyennes et des citoyens comme les autres qui travaillent, qui ont des activités culturelles, artistiques, sportives, associatives, citoyennes. Et voilà, c'est l'état d'esprit de cette semaine.
Alors, il faut dire aux auditeurs que les conseillers municipaux et métropolitains ont pour beaucoup une activité professionnelle, un métier à côté de leur fonction dans la municipalité. J'ai lu que vous étiez auxiliaire de vie, donc auprès de personnes en situation de handicap. Vous l'êtes toujours ?
Je le suis toujours, oui. C'est un choix important de ma part au début du mandat. Auxiliaire de vie, c'est un métier dont je suis fier. C'est un métier important pour moi. Et puis, en tant qu'élu, il était aussi important pour moi d'avoir toujours une activité professionnelle pour avoir un pied dans la réalité. Quand on est militant, quand on est élu, on peut facilement se retrouver enfermé dans un monde politique. Et moi, j'avais besoin de continuer de voir des personnes normales et d'avoir une activité professionnelle. Donc voilà, je fais donc une nuit par semaine, puisque je travaille de nuit. Je fais la nuit du vendredi au samedi.
Ça change quoi pour l'élu que vous êtes ? Est-ce que ça change peut-être la perception que vos interlocuteurs peuvent avoir de vous ? Vous êtes peut-être perçu comme plus légitime sur ces questions de handicap ?
Déjà, je ne sais pas si j'aurais eu cette délégation au handicap si je n'avais pas été auxiliaire de vie. Je n'aurais peut-être pas eu l'idée de prendre cette délégation-là. Et oui, forcément, ça donne une certaine crédibilité aux personnes que je peux rencontrer quand je leur explique que je suis auxiliaire de vie. Tout de suite, bon, voilà, c'est un auxiliaire de vie, connaît un peu la situation.
Des personnes qui l'accompagnent.
Voilà. Et c'est vrai que tous les problèmes d'aménagement dans la ville, je les ai beaucoup découverts dans le métier. Quand on accompagne une personne en fauteuil roulant et qu'on la voit galérer pour monter sur les trottoirs, pour contourner les poteaux, les poubelles, on se rend compte de choses qu'en tant que valide, on ne voit absolument pas du tout. Des choses qui sont pour nous totalement anodines, mais qui risquent de gâcher toute la journée de la personne. Quand on est auxiliaire de vie, on le voit en direct.
On arrive à cette semaine locale du handicap, 3e édition, un événement qui fait partie du plan de mandat de la maire de Rennes et de son conseil municipal. Cette année, ça se déroule du samedi 23 septembre au dimanche 1er octobre. 78 partenaires sont mobilisés pour une quarantaine d'événements qui sont proposés dans 22 lieux de la ville. Le premier temps fort, et c'est sans doute le meilleur moyen pour découvrir la programmation, c'est d'aller au Cadet de Bretagne dans le quartier de Maurepas, c'est samedi, c'est ça, pour une présentation de la programmation.
Voilà, c'est donc le samedi à partir de 15h. Là, il y aura tout le monde. Vous avez dit qu'il y avait 70 partenaires. Ils seront quasiment tous là. Donc c'est le bon moment pour se renseigner sur la programmation. Mais c'est aussi le bon moment pour rencontrer des gens, pour discuter, pour apprendre, pour découvrir les choses. Voilà, c'est pour échanger avec tout le monde. C'est vraiment le bon moment.
Et donc là, l'après-midi sera placé sous le signe de la culture avec du chant signe qui sera proposé au public à 16h30. Tout au long de la semaine à venir, des ateliers, des projections, des conférences, des expositions, des jeux aussi. Tout ça, c'est évidemment pensé pour être accessible. On parle souvent de l'accessibilité, physique au lieu, mais c'est aussi pensé pour être accessible cognitivement. L'un ne va pas sans l'autre.
Oui, ça sert à rien de pouvoir accéder à un lieu si on peut pas accéder au contenu. Donc forcément, l'accessibilité, elle est physique, elle est sensorielle et elle est cognitive aussi, évidemment.
Donc c'est pour ça que sur la programmation qui est à retrouver en ligne sur le site métropole.rennes.fr, il y a tout un ensemble de pictogrammes pour identifier si on peut bien venir au rendez-vous avec un handicap visuel, si on est sourd ou malentendant, etc. Sur l'accessibilité au lieu, c'est sans doute là qu'il y a le plus gros défi pour la ville de Rennes, puisqu'il y a une échéance, l'obligation en 2024 que les lieux publics soient accessibles aux personnes en situation de handicap. On dit où on est, la ville de Rennes, ça avance jour après jour.
Oui, on est sur un chantier qui est vraiment énorme, qui concerne absolument toutes les villes. Et hier encore, j'étais aux journées de France Urbaine, qui sont actuellement lieu à Angers. Et il y avait un atelier sur cette question de l'accessibilité. La loi nous impose d'avoir tous les lieux accessibles en 2024. Nous ne serons pas prêts. La ville de Rennes a pour objectif d'avoir tous nos bâtiments accessibles en 2027.
Et alors ça, je le lisais sur le site de métropole.rennes.fr. A priori, chaque année, ce sont 3 millions d'euros qui sont consacrés à des travaux à la fois sur la voirie, mais aussi donc dans les équipements publics pour les rendre accessibles avec cette obligation imposée par le gouvernement. Pendant cette semaine locale du handicap, il va se passer des choses dans des lieux tout publics. On peut les citer, les Champs Libres, l'Arvor, le TNB, l'Opéra, le Triangle, l'Étage, le Musée des Beaux-Arts ou encore l'Écomusée. Il va aussi se passer des choses, des événements dans des structures du champ du handicap. Par exemple à l'EPNAC, qui est peut-être pas connu des auditeurs, l'établissement public national Antoine Königswarter. J'espère que je l'ai bien prononcé. On en dit un mot sur cette structure ?
Oui, alors l'EPNAC, c'est une association qui existe sur l'ensemble de la France. Elle gère un établissement qui a un autre nom, l'établissement Jean Janvier. C'est le même monsieur Janvier que l'avenue Janvier. C'est un établissement qui est plus que centenaire sur Rennes, puisqu'il a été créé à l'issue de la Première Guerre mondiale pour s'occuper des infirmes de guerre. Donc c'est un établissement qui fait un super bon travail, notamment sur la reconversion professionnelle de personnes qui se retrouvent en situation de handicap. C'est un établissement que moi je ne connaissais pas en tant que Rennais et que j'ai découvert en début de mandat. Ils sont sur le quartier de la Touche. Je pense qu'il y a beaucoup de Rennaises et de Rennais qui ne connaissent pas ce lieu. Et donc il y a plusieurs événements qui auront lieu pendant cette semaine dans les locaux de l'EPNAC. Et je pense que voilà, l'EPNAC a ouvert ses portes aussi pour se faire connaître, et c'est une très bonne chose.
Notamment une conférence qui sera organisée lundi prochain, lundi 25 septembre à 17h30, donc à l'EPNAC à Rennes, où il va être question du répit des accompagnants de personnes en situation de handicap. Il y aura plusieurs acteurs présents pour faire vivre cette conférence, notamment Loisirs Pluriel, qu'on a déjà entendu dans l'émission d'information locale, qui alertait il y a de ça bientôt un an sur les difficultés que rencontrait cette association, qui accueille des enfants de situation de handicap au moment des mercredis après-midi, mais aussi des vacances, justement pour donner du répit aux parents. Ce répit, c'est un thème central dans les questionnements autour du handicap.
C'est extrêmement important. Là, on parle des aidants familiaux. Savoir, aidant familial, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. C'est extrêmement usant, extrêmement fatigant, et donc ces personnes ont besoin de pouvoir penser à autre chose de temps en temps, d'avoir une vie autre que celui d'aider son enfant ou son conjoint ou son parent. Et donc voilà, le répit, c'est un enjeu important, et donc on a différentes structures, des associations qui travaillent sur cette question-là. Donc voilà, ce sera le thème de cette conférence du 25 septembre, et notamment si vous êtes aidant familial, que vous avez du mal, que vous vous sentez débordé, que vous avez du mal à trouver des solutions, je vous invite fortement à venir à cette conférence, parce que là on va présenter toutes les solutions qui existent pour aider les aidants.
Au-delà des conférences, il y en a d'autres. Hein. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de projections proposées du côté de l'Arvor, surtout. Beaucoup de ciné-débats. Je voulais annoncer une de ces projections proposées dimanche 24 septembre, à partir de 16h, donc à l'Arvor. La projection commencera avec le documentaire « Dans la terrible jungle » qui nous amènera en institut médico-éducatif. Un type d'établissement qu'on retrouvera aussi avec la deuxième proposition, Monster Trip, où là on découvrira l'IME, l'Institut Médico-Éducatif de Poligny. Ça, c'est pour la projection de dimanche prochain à 16h à l'Arvor.
C'est la bonne annonce, mesdames et messieurs, c'est la bonne annonce du film Terrible Jungle.
Je crois que ça leur intéresse, les gens, un film d'amour et d'adolescent.
Oh, bravo les femmelettes, père de baf.
Là, c'est là où...
Attends, je dis action. Il y a un truc qui passe.
Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il fait un temps gris, mais c'était le seul jour qu'on pouvait tourner la bande-annonce. Dans le film, on a mis toutes les saisons, l'automne, le printemps. On est en train de tourner, Saïd.
Ça, il peut pas passer.
Mais il n'y a pas ça avant, parce que là, on est en tournage. Là, tu nous as bousillé notre tournage.
D'autres temps forts durant cette semaine locale du handicap 3e édition. Un après-midi festif au Triangle, ça devient une habitude, avec une boum inclusive, entre autres choses. Ça, c'est le mercredi après-midi, le 27 septembre.
Oui, on avait décidé de l'organiser l'année dernière, lors de la deuxième édition. On a vu l'intuition que ça allait être un moment fort. On avait pour ambition, pour ce moment-là, que les enfants fassent la fête ensemble, s'amusent ensemble, quelle que soit leur situation. Et ça avait super bien marché. Il y a eu beaucoup de monde. Et Et effectivement, tous les enfants avaient fait la fête ensemble. Il y avait des enfants valides, il y avait des enfants en situation de handicap moteur, des enfants en situation de handicap sensoriel, des enfants en situation de handicap cognitif. Et en parallèle, il y avait de la médiation animale. Donc, une professionnelle qui était venue avec des lapins, des cochons d'Inde, des chiens, un bouc. Et il y a eu un moment dans l'après-midi où il n'y avait personne à la médiation animale, c'était le moment du goûter.
Évidemment. Et vous remettez donc ça cette année avec un après-midi festif au Triangle, mercredi prochain de 15h à 17h. Il y aura aussi de la médiation animale et puis aussi des ateliers handisport et découverte du Cessi Taekwondo. Du Taekwondo avec un bandeau sur les yeux pour se mettre à la place de et vivre le temps de cet atelier, ce que c'est d'avoir une déficience visuelle en fait.
Oui, oui, voilà.
L'autre temps fort qui se déroulera à l'Hôtel Pasteur samedi 30 septembre après-midi, ce sera donc un après-midi plutôt geek, technologie, réalité virtuelle avec beaucoup d'acteurs qui seront sur place pour faire vivre cet après-midi au public. Troy Combo et son célèbre Stuntfest, My Human Kit qui construit avec les personnes en situation de handicap des prothèses. Et il y aura aussi le Lab Saint-Hélier, ouais, ça va être un après-midi ouais, de geek.
Oui, alors nous avons la chance sur Rennes d'avoir des structures qui sont extrêmement innovatrices dans le domaine du handicap, qui font un travail formidable. Sur Rennes, il y a cette émulation, ce fourmillement qui est propre à Rennes. Enfin, Rennes n'est pas la seule ville à être dans ce cas-là. Je pense notamment à Lorient aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font à Lorient. Mais Rennes est plutôt bonne sur cette question-là, grâce à tous ces acteurs. Et pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'on organise quelque chose sur cette question-là.
Donc ça, c'est pour l'après-midi geek à l'Hôtel Pasteur, dans une semaine, samedi 30 septembre, après-midi. Ça se déroule de 14h à 19h, avec plein de choses proposées sur place. Et une dernière question, peut-être, sur ce qui vous attend en tant que conseiller municipal adjoint au handicap dans l'année à venir, avec donc... Vous nous le dites aujourd'hui, des assises rennaises du handicap qui vont être organisées en 2024. L'assise, je pense que c'est un format qu'on a vu dans plein d'autres champs, qui est assez contemporain, qui est assez moderne. Ça va ressembler à quoi très concrètement ?
Autant sur la semaine locale du handicap, on était sur un aspect assez festif, assez positif du handicap, de montrer voilà, que le handicap, c'est pas que du...
De la contrainte.
De la contrainte, c'est beaucoup d'activités culturelles, sportives, voilà. Autant les assises, on sera sur un moment politique. On a tout un tas de sujets qui, à mon avis, ne sont pas assez traités. On parle beaucoup d'accessibilité, mais le handicap, c'est pas que les questions d'accessibilité. Moi, l'accessibilité, c'est au quotidien que j'en parle, mais il faut aussi qu'on parle des questions de discrimination, de validisme, d'intersectionnalité, qu'on parle de l'accès à l'emploi, qu'on parle des relations entre handicap et santé, notamment les relations avec le monde hospitalier, qu'on parle de l'avenir des institutions, de ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation, à quoi ça peut ressembler, de quels modèles d'inclusion peuvent exister. Il y a tout un tas de sujets qu'il est important de traiter, de mettre autour de la table des personnes qui ont parfois un peu de mal à discuter entre elles parce qu'elles sont sur des positions qui sont parfois un peu antagonistes. Dans le monde du handicap, on a des associations anti-validistes qui estiment que des associations, des grosses associations qui sont gestionnaires d'institutions sont validistes. C'est vraiment une question notamment qu'il va falloir poser pendant ces assises, rappeler ce que c'est que le validisme. Et au quotidien, imposer des choix, imposer des façons de faire aux personnes en situation de handicap, ça peut être au quotidien, quand elles le vivent tous les jours.
Quand on fait pour et pas avec, quoi.
Oui, voilà. Ou même quand vous voyez une personne qui est en fauteuil roulant, qui est en train de galérer, vous pensez qu'elle est en train de galérer sur le trottoir, la chose à faire, c'est lui demander si elle a besoin d'aide. Mais il y a des gens qui ne vont pas lui demander, qui vont tout de suite faire la chose. Donc les personnes en situation de handicap sont des personnes normales, sont des personnes aussi légitimes que d'autres pour faire leur choix. Et elles savent mieux que n'importe qui ce dont elles ont besoin et on n'a pas besoin de leur expliquer à la place.
On aura l'occasion d'en reparler dans l'émission d'information locale, je pense. Ici sur Canal B, je vous représente Jean-François Monnier. Vous êtes conseiller municipal à la ville de Rennes, adjoint au handicap. On a donc ensemble pu annoncer cette troisième semaine locale du handicap qui est organisée du samedi 23 septembre au dimanche 1er octobre. Une quarantaine d'actions. Certaines sont parfois payantes, évidemment, quand on va au cinéma, par exemple. Le programme complet, il est à retrouver en ligne sur métropole.rennes.fr. Oui. Vous souhaitiez ajouter un mot ?
Oui, parce qu'il y a des événements qui sont arrivés un peu tard et qui ne sont pas sur le programme et donc j'ai promis que j'allais faire un peu plus d'éclairage sur ces événements. Donc le jeudi 28 il y aura un événement sur autisme et emploi organisé par l'association Autisme Aide à partir de 9h15. Ce sera toute la journée du jeudi à la chambre des métiers de l'artisanat 1 rue de l'Alma. Et le samedi 30, il y a l'association Front de Mer qui invite notamment Charlotte Puiseux, qui est philosophe et militante. Et là, ils organisent une causerie sur les enfants en situation de handicap et handiparentalité. Donc, à partir de 14h30, au pôle associatif de la Marbaudet.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous.
Et son morceau À la nage sur Canal B, un morceau que vous pouvez retrouver sur le super album Touch the Lock qui est sorti en 2022 sur les labels Infiné et Pain Surprise. C'était le premier disque de ce duo français que j'aime beaucoup et il joue à Angers, tiens, le 18 octobre prochain, si vous êtes fan et dans le coin. La Reine, l'émission d'information locale de Canal B, se poursuit avec tout de suite un reportage. Et oui, place à un reportage réalisé lors du tribunal des mobilités pour les générations futures. C'était mercredi 20 septembre dans l'auditorium des Champs Libres qui affichait complet pour l'occasion. Le public a pu découvrir une conférence spectacle aux allures de procès sur une idée d'Ouzbek Erika, le média qui explore le futur. Et donc, avec un spectacle décliné à Rennes, cette fois par Keolis, la société qui exploite le réseau de transport en commun dans l'agglomération rennaise. C'était l'occasion de discuter avec Armel Guéneguès d'acceptabilité du changement ou encore de voitures électriques.
Bienvenue à cette nouvelle audience du Tribunal pour la mobilité des générations futures. Comme vous allez vite vous en rendre compte, nous sommes une juridiction un petit peu particulière, puisque toutes les questions que nous examinons le sont dans l'intérêt de nos descendants. À l'ordre du jour ce soir, donc, une ville désirable est-elle une ville sans voiture? Pour répondre à cette question, nous accueillerons trois témoins ici présents au premier rang, qui comparaîtront à la barre en quelques instants pour exposer leur version des faits. Je vous prie de bien vouloir les applaudir.
Alors on se trouve dans le bel auditorium des Champs Libres, donc en plein centre-ville de Rennes. Et donc ce soir, nous organisons en partenariat avec Ouzbek Erika un tribunal pour la mobilité des générations futures. Autour de la question, une ville désirable est-elle une ville sans voiture? Donc je m'appelle Armel Guéneguès, je suis directeur marketing, commercial et innovation de Keolis Rennes. Donc Keolis Rennes, c'est l'opérateur du réseau STAR, donc bus, métro, vélo, covoiturage de Rennes Métropole. Alors Keolis Rennes, on est 1100 personnes, et puis à ça il faut ajouter 300 personnes qui travaillent dans des entreprises sous-traitantes. Donc au quotidien, c'est pas très loin de 1500 personnes finalement qui font tourner le réseau STAR.
On peut dire un mot sur Ouzbek Erika, comment est-ce que le lien s'est fait entre vous et qui sont-ils en quelques mots?
Alors Ouzbek Erika publie un magazine prospectif depuis plusieurs années, et ils ont également conçu et déposé un format en fait de conférence spectacle, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle le Tribunal pour les générations futures. Donc l'idée, c'est de justement interroger des thèmes d'avenir et d'amener chacun à se positionner sur quelle est la meilleure réponse à apporter à cette question pour les générations qui nous suivront. Keolis Rennes, on est rattaché à un groupe national qui s'appelle Keolis. Keolis intervient sur tout type de territoire, en France et à l'international, dans les villes, mais également le milieu rural, autour de la mobilité. Et donc on a voulu en fait investir quelque part le domaine un peu des idées sur le thème de la mobilité des territoires et d'apporter une contribution en allant organiser ces tribunaux, quatre tribunaux de ce type-là, cette année en 2023, dans différents territoires pour voilà, quelque part amener notre pierre au débat.
Est-ce que c'est des nouvelles formes de communication pour une société comme la vôtre qui n'existait pas avant, de proposer là presque, alors c'est un peu sous forme de procès, mais on est proche de la représentation face à un public?
Exactement, en fait, c'est la volonté d'avoir effectivement un format dynamique qui intéresse ou interactif, donc qui va peut-être être un tout petit peu différent de la conférence, un peu plus dynamique. Et puis on a également une participation du public, puisque dans le procès, il y aura cinq jurés. Donc quatre seront des étudiants de formation partenaire de l'organisation de l'événement. On a un master de l'Université de Rennes 1, un master de l'urbanisme de l'Université de Rennes 2, un master de Sciences Po Rennes, et on a ce qu'on appelle l'atelier XXL, qui est une coopération d'acteurs d'acteurs de l'éducation nationale et de la mobilité autour des métiers de la maintenance dans les transports. Donc c'est aussi une pluralité de formations, de jeunes qui seront présents. Et le cinquième juré sera le public lui-même qui sera amené à voter.
Bien, à présent que notre cours est au complet, je déclare donc ouverte cette nouvelle audience du Tribunal pour les générations futures. Avant de passer à la présentation des faits, je vous propose de visionner quelques premières preuves qui nous rassemblent ici ce soir, s'il vous plaît.
Être seul dans la rue, quel rêve! La réalité, c'est un problème de la circulation qui devient chaque jour plus pressant.
Le jury va prendre position après des interventions de trois experts qui sont pour certains des associations, pour d'autres des cabinets, laboratoires d'idées, pas que parisiens, ils viennent de plusieurs endroits en France, vous pouvez les présenter.
Exactement. En fait, on a essayé d'apporter une pluralité de points de vue par rapport à la question qui est posée. Donc, on a effectivement trois intervenants et intervenantes. La première qui interviendra, c'est Anne Faure, qui est présidente de l'association Rue de l'Avenir, qui est une association qui milite pour accorder davantage d'espace aux modes actifs, donc les modes vélo, piétons, en ville, et donc quelque part pour diminuer la place de la voiture. Donc c'est une représentante, si on veut, de la société civile qui œuvre dans ce sens-là, de manière militante. Le deuxième intervenant sera Jean-Marc Hoffner, qui est directeur scientifique de la société Cité et président de l'école urbaine de Sciences Po, et qui est aussi ancien patron de l'agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Donc lui, il a vraiment une vision autour de l'aménagement urbain et quelque part de l'urbanisme, on peut dire, pour dire simplement. Viendra interroger la place de la voiture en ville à ce titre-là. Et la troisième personne est Laurence de Nerveau, qui est directrice d'études au cabinet Destin Commun. Alors quelque part, là, c'est un peu la voix du peuple. Ils ont mené une grande étude, en fait, où ils sont allés interroger les Français sur leurs appétences réelles en termes de mobilité. Donc là, on compte sur elle, et donc cette étude qui est disponible publiquement, et on compte sur elle pour faire justement cette voix du peuple et venir dire, au-delà de ce qu'on voudrait que les gens fassent, qu'est-ce que les gens veulent vraiment et quelle est leur capacité à changer. Donc l'idée, c'est de ne pas être dans l'entre-soi, c'est d'avoir tous les points de vue qui s'expriment au travers de ces trois intervenants.
C'est le moment où on redit peut-être que, alors si on suit notamment les recommandations du GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, la voiture va devoir prendre moins de place dans les années à venir en ville pour atteindre des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, c'est un sujet qui, même à l'échelle locale à Rennes, dans une terre plutôt politiquement de gauche, le sujet est source de crispation à l'échelle politique, comme chez les citoyens, les habitants. La question pousse la logique un peu au bout en imaginant une ville sans voiture.
Exactement, et on essaie de mesurer en fait le pas qu'il y a à franchir entre ce qu'il faudrait et ce qu'on est capable de faire. Ce qui est compliqué avec la mobilité, c'est que la mobilité n'est en général pas une fin en soi, mais c'est, derrière la mobilité, il y a tout le planning d'activité. Et quand on change sa mobilité, ça peut impacter les activités qu'on va pouvoir faire au cours de la journée. Donc c'est très compliqué de faire évoluer les gens. Et donc même s'il y a, comme vous le disiez, une conscience de la nécessité de changer qui est en train vraiment de s'étendre, pour autant la capacité à réellement changer elle reste limitée. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument bâtir, c'est tout ce qu'on évoquera ce soir, des alternatives qui soient performantes, efficaces, désirables pour que les gens puissent changer de comportement.
Comme Keolis, on va dire simplement, gère les transports en commun dans Rennes et sa métropole, peut-être que vous pouvez me dire un peu si l'un des plus grands défis, c'est justement de plus penser à l'échelle uniquement de la ville, mais de la métropole. On sait qu'aujourd'hui, quand on habite dans Rennes, les choses sont plus faciles parce qu'on peut prendre son vélo pour parcourir pas mal de distance, qu'on a un accès direct au métro. C'est quand on sort de la ville que d'ailleurs aujourd'hui de grands chantiers politiques sont menés, je pense au trambus, mais il y en a d'autres, d'élargir à la réflexion hors de la ville.
Exactement, hors de la ville. Et comme vous le disiez, c'est tout l'enjeu du projet trambus qui va se déployer dans les prochaines années sur Rennes Métropole. Aujourd'hui, il y a des solutions extrêmement performantes intra-rocade, notamment le métro. La ligne B a été lancée il y a un an, c'est un très gros succès. Et c'est important pour tout le monde parce que il y a pas non plus que les Rennais qui l'utilisent, tous les gens qui viennent au quotidien. Voilà, maintenant, l'enjeu, c'est également d'offrir des solutions très performantes aux communes de la métropole qui sont autour, et j'ai envie de dire même au-delà. Parce qu'en réalité, Rennes Métropole, c'est 450 000 habitants et 43 communes, mais on sait que le bassin de vie rennais, c'est plutôt 750 000 habitants et 180 communes. On va jusqu'à Plélan-le-Grand, on va jusqu'à au-delà de Vitré, etc. Donc, ces personnes qui viennent travailler dans le cœur de métropole souvent ont besoin de solutions performantes pour pouvoir changer de mobilité. Donc c'est aussi tout l'enjeu politique de discussion. Actuellement, Rennes Métropole a des échanges avec toutes les intercommunalités environnantes pour qu'ils bâtissent ensemble des solutions qui soient efficaces pour ces populations-là.
C'est un hasard du calendrier, là, ce temps fort que vous organisez, il arrive le jour des 1 an de la mise en service de la ligne B de métro, qui était un moment important il y a 1 an pour Rennes et sa métropole.
Bah, effectivement, c'est un hasard plutôt heureux, ça tombe bien, puisqu'effectivement, ça a été une mesure emblématique pour aller vers une ville avec moins de voitures, donc c'est l'occasion de prendre un temps de recul et de se projeter sur la suite. C'est aussi au cœur de la semaine européenne de la mobilité, hein, qui se déroule cette semaine et qui donc est propice à ce qu'on débatte autour de ces sujets. Alors effectivement, l'autre actualité, l'autre projet phare en ce moment sur le réseau STAR, c'est le déploiement de bus électriques qui sont en train d'être mis en service sur la ligne C6 et la ligne 12. Donc on a une dizaine de véhicules qui tournent aujourd'hui. On en aura plus de 90 en 2025, d'ici 2025. Et en fait, l'horizon, c'est qu'à 2032, on ait l'ensemble du parc du réseau STAR de bus qui soit propre, soit en technologie électrique, soit en technologie biogaz naturelle. Et donc c'est un enjeu fort aussi de décarboner la flotte des véhicules pour le bien-être des citadins.
Et c'est une échéance accessible parce que ça paraît être demain, 2030?
Oui, c'est lancé en fait. Hein, au niveau des bus gaz, on a déjà plus de 70 bus gaz qui tournent. Bus électriques, là c'est les premiers, donc c'est tout un système avec un rechargement au dépôt, un rechargement et les terminus qui se met en place. Donc là c'est encore les derniers réglages sur les premiers véhicules, mais après l'idée c'est vraiment d'industrialiser et de rentrer au moins 25 véhicules par an et pour avoir tout fait d'ici à peu près 2030.
Je sais qu'il y a des auditeurs qui peuvent être assez critiques vis-à-vis du développement de l'électrique. Oui. L'idée, c'est de redire que ce n'est pas magique, mais que c'est déjà mieux que d'avoir des véhicules à l'énergie fossile, quoi.
La solution à la voiture, ce n'est pas uniquement de l'électrifier, parce que ça a encore plein de défauts. On estime que sur un cycle de vie complet, de la production au recyclage des batteries, etc., on diminue quand même de 60% en fait, l'empreinte carbone avec l'électrique. Donc on ne diminue pas de 100%, c'est vrai, même s'il n'y a plus de particules émises localement, mais on diminue quand même considérablement, en tout cas, l'empreinte carbone. Donc ça reste une amélioration, mais l'électrification des parcs n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique de mobilité, ça c'est clair.
J'appelle le premier témoin à la barre, s'il vous plaît.
Je m'appelle Anne Faure, je suis présidente d'une association qui s'appelle Rue de l'Avenir, une association qui fait la promotion des modes actifs et de la qualité de l'espace public, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et notre association existe depuis plus de 30 ans et a quelques correspondants dans toute la France, et notamment à Rennes.
Merci beaucoup, madame.
Bone.
Whalebone par The Dead Brothers sur Canal B, que vous écoutez sur le 94.0, peut-être à travers la radio numérique terrestre si vous êtes dans un véhicule récent, ou bien sur canalb.fr, un site où vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des podcasts des émissions réalisées par les salariés mais aussi par les bénévoles. À l'instant, le morceau que vous venez d'entendre, c'était une nouveauté musicale choisie par Yann, notre programmateur, et issue de l'album Death is Forever. Ça sort le 13 octobre prochain chez Voodoo Rhythm Records, et le titre est assez tragique puisqu'il s'agit donc du dernier album de ce groupe suisse, les Dead Brothers, qui ont plus de 20 ans de carrière derrière eux, album qui sort après le décès du fondateur de ce même groupe. Pour l'histoire, vous êtes en train d'écouter L'Arène, l'émission d'info locale de Canal B, qui vous le redit régulièrement si, auditeur, vous avez des actions ou des événements à mettre en lumière auprès des auditeurs, que ce soit avec votre association ou autre type de structure, tant que le but n'est pas purement lucratif, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Ensuite, je reprends en contact avec vous pour vous proposer une interview en studio ici à Canal B, ou pourquoi pas un reportage sur le terrain. Et parfois, j'annonce aussi vos événements sous forme de recommandations. Et tiens, c'est l'heure. Et oui, avant de vous quitter, quand même, la traditionnelle recommandation du jour, puisque chaque jour, on termine l'émission avec des conseils d'événements à vivre, parfois de choses à écouter, à lire ou à voir. Ce week-end, il y a au passage des portes ouvertes dans l'entreprise à but d'emploi Blown Up. C'est samedi 23 septembre de 10h30 à midi. L'occasion de découvrir ce projet qui salarie aujourd'hui 20 personnes qui étaient auparavant éloignées de l'emploi. Il y a aussi des braderies, c'est ma passion, je vous l'avoue. Des braderies du côté de Gévesey et Saint-Malo pour le samedi, et Château-Giron, Gévesey toujours, Le Landry à Rennes et Saint-Aubin-d'Aubigné pour le dimanche. Mais surtout, je m'arrête là-dessus, il y a du théâtre à l'écomusée de la Bintinet en partenariat avec les Tombées de la Nuit. Rendez-vous dimanche 24 septembre à 16h30 pour découvrir Rotophile, l'histoire d'une transmission agricole. Anaïs n'a pas repris la ferme familiale, mais elle est confrontée à un dilemme. Sa voix se mêle à celle de témoignages d'agriculteurs et d'agricultrices. C'est un spectacle de la troupe des Armoires Pleines, spectacle pluridisciplinaire qui mêle écriture, son, travail plastique et documentaire pour mieux donner voix aux agriculteurs dans l'espace public. Les tarifs, ils vont de 4 à 10 euros. Et pour plus d'infos, il y a le site lestombeesdelanuit.com. D'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.